Aurégane Texier, l'émission Touche et Terre, hors série sur le zoo refuge La Tanière. Imaginez un lieu où cohabitent ours, otaries et bien plus encore. Et non, ce n'est pas réellement d'un zoo dont je vais vous parler aujourd'hui, mais bien d'un zoo-refuge. La Tanière, près de Chartres, est un lieu unique en son genre en France qui recueille différentes espèces d'animaux maltraités, en sortie de laboratoire ou de cirque par exemple. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce projet extraordinaire avec ceux qui le connaissent le mieux. Tout d'abord, j'ai rencontré Patrick Violas, son fondateur. Au travers de ses mots, vous allez découvrir son amour pour les animaux qui l'a conduit dans cette aventure un peu folle. Et pour finir, embarquez avec moi dans la voiture de Sophie Fernandez-Petitot pour faire un tour du refuge. Au programme, découverte des enclos en construction, arrêt chez les éléphants ou encore au plus près des otaries. Commençons donc ce hors-série par l'interview de Patrick Violas, fondateur de La Tanière. Au départ de ce projet, il y a vous et votre femme, Francine. Alors tout commence par la ferme pédagogique La Renaissance. Racontez-nous l'histoire de ce projet.
Alors il y a une dizaine d'années, on avait racheté ce corps de ferme. On avait créé, on a fait une ferme pédagogique. On n'avait que des animaux domestiques, vaches, moutons, cochons, chevaux, etc., d'animaux de ferme. Et puis, mais déjà que des animaux estropiés, à trois pattes, malades, boiteux, dont plus personne ne voulait, etc. Et on faisait visiter ce site aux enfants des écoles principalement, un petit peu au public, mais surtout aux enfants des écoles. Et surtout aux enfants aux difficultés physiques ou mentales, le contact avec les animaux leur faisant un bien énorme. Et puis au fur et à mesure des années, des rencontres, des événements, la vie c'est ça, hein, c'est une succession de moments et de rencontres, on est rentré dans le monde du sauvage. La première fois qu'on a été dans le monde du sauvage, c'était pour des daims. Des daims, c'est des bambis, qui étaient à Rouen, dans l'école de police nationale à Rouen, l'école où ils formaient les policiers. Et il y avait un grand parc avec des daims, une cinquantaine de daims, qui n'étaient pas en règle du tout, qui n'avaient pas de papier, machin, etc. Et du coup, la police avait saisi les daims de la police. Ils devaient euthanasier tous ces daims. On a été alertés, nous, à l'époque, par des associations. On a obtenu une autorisation provisoire de la préfecture à Chartres, qui a toujours été derrière nous dans le projet, pour les avoir, parce que c'est des animaux dangereux, enfin, dangereux, parce que sauvages, donc il faut pas, on n'a pas le droit de les prendre comme ça. On a réussi à en sauver une quinzaine, malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose pour les autres. C'est au cours de ce sauvetage qu'on avait rencontré Florence, notre vétérinaire, qui est une sommité dans le monde des animaux sauvages. Et puis, petit à petit, à force d'échanges, d'aller voir d'autres animaux, etc. Et puis aussi, la rencontre avec Lisa et Paolo, au fin fond de l'Espagne, des gens qui avaient des ours, des otaries, 20 chiens, 20 chats, 3 enfants accessoirement, et qui étaient conscients que ce n'était pas à leur place dans le monde du cirque. Ils travaillaient en freelance pour les cirques. Mais comment vous voulez sortir de ça quand vous avez tout ça? Donc c'était une rencontre un peu folle, entre fous, et on a dit, voilà, si vous venez avec nous, on lance ce projet-là. Donc on avait une équipe, la gagnante, mon épouse, Florence, Lisa, Paolo et moi, chacun dans son domaine. Florence, la scientifique, Lisa et Paolo, connaissance du monde du sauvage. Et puis nous, la connaissance et un peu du business et un peu tout ce qu'il fallait mettre en place. Et puis surtout, tous la même passion pour ce monde des animaux. Et on s'est dit, on va faire un refuge au début. Et puis, quand on a vu l'ampleur que ça prenait, les demandes qu'il y avait de placement d'animaux, etc., on dit, on n'est pas des bisounours, ça pourra pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On va créer le premier zoo-refuge, de façon à ce que les entrées puissent faire fonctionner le parc. Et puis, c'est comme ça que tout a commencé.
Quelles sont vos missions exactement?
Alors, les missions de La Tanière sont avant tout l'animal. D'abord, jamais de jugement. On ne juge pas. Il faut qu'on juge, il faut qu'on nous énerve vraiment très fort. C'était le cas avec l'ours Micha, lorsqu'il était très maltraité. Notre mission, c'est quand il n'y a pas d'autre solution pour l'animal, on est là. On essaye d'explorer avant toutes les autres pistes possibles et imaginables, parce que les places vont être chères petit à petit ici. Notre mission, c'est de recueillir les animaux quand il n'y a pas d'autre solution, de les soigner quand il y a besoin de les soigner, de les mettre en règle, les papiers, etc. Et ensuite de les replacer autant que faire. Se peut, on n'a pas vocation à les garder, sinon on va être saturé, il faudra un refuge pour sauver le refuge, ça sert à rien. Donc on replace au maximum. Malheureusement, il y a certains animaux qui ne pourront pas être replacés parce qu'ils ont trop besoin de nous, de soins. Il y en a d'autres qui sont, j'allais dire trop moches, mais je ne le pense pas, mais dont personne ne voudra parce que ça n'intéresse pas les parcs, etc. Mais plus ils sont moches, plus ils sont beaux. Et puis, dans notre mission, il y a la préservation de certaines espèces, comme les éléphants d'Asie.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différents animaux que vous recueillez ici ?
Ce qui arrive chez nous, 40-45% sont des animaux issus de saisies. Saisies par les autorités pour, en premier lieu, trafic. Trafic d'animaux, on fait naître des bébés, des bébés tigres, des bébés lions, des bébés cervales, des bébés singes, et on les vend. Détention illégale, alors détention illégale, c'est pas encore ce qu'il y a de plus grave, mais détention illégale dans des mauvaises conditions, c'est surtout ça la problématique. Quand on nous appelle juste pour un problème de papier, on va pas, quoi, parce que si l'animal est bien là où il est, il n'y a pas de raison de le séparer de des gens qui l'ont réclé. C'est souvent le cas avec des perroquets ou des animaux comme ça. Animaux que des particuliers nous amènent, et là avec le Covid, c'était multiplié par 10, que les gens ont pris peur. Tous les gens qui avaient des oiseaux, des perroquets, etc., ont pris peur. Des gens qui avaient de façon illégale des petits singes, etc., les ont abandonnés un peu partout. On en trouve régulièrement chez nous en arrivant. Animaux de cirque à la retraite, principalement, jusque-là. Aujourd'hui, le monde du cirque va évoluer, va changer. Il ne faut pas que ça soit un passage en force, il faut que les choses se fassent tout à fait tranquillement. De toute façon, les gens du cirque sont des gens intelligents, ils l'ont bien compris. Le problème dans le cirque, ce n'est pas les gens du cirque, c'est de devoir se déplacer sans arrêt avec tous ces animaux. Sinon, les gens du cirque ne font pas de mal à leurs animaux, ce n'est pas des méchants. C'est des conditions de détention, etc. Donc, ils nous amènent des animaux à la retraite. Certains d'entre eux ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont compris que c'était la fin d'une histoire. Donc, là aussi, on accueille, on soigne et on replace quand il y a besoin, quand on peut replacer. Nous arrivent aussi les animaux de laboratoire. Ça a commencé il y a 3 ans. Une association à Paris qui s'appelle Le Graal qui s'occupe de replacer des animaux de laboratoire, mais qui pour l'instant ont replacé que des chats et des chiens. Ce qui était plus facile à replacer. Pour les singes, il n'y avait pas grand-chose de fait, si ce n'est par-ci, par-là, un ou deux par-ci, par-là, mais rien pour les singes. Et on était les seuls. Donc ils ont fait une grande réunion pour nous dans un grand hôpital parisien avec tous les laboratoires qui étaient là. On nous demandait et le CNRS qui était là aussi. On nous demandait si on avait pas une petite place pour certains singes. Là aussi, on n'est pas dans le jugement. J'ai rencontré des gens très intelligents. Et au CNRS, où j'ai un peu plus tendance à écouter le discours, parce qu'il n'y a pas le but lucratif qu'il peut y avoir ailleurs, même si les gens que j'ai rencontrés sont plutôt des gens sincères partout, on nous a expliqué que sur certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson par exemple, on n'avait pas d'autre solution que de tester sur du vivant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Teste sur des populations en Afrique, comme on l'a fait pendant très longtemps, où on trouve des gens ici en France ou en Europe prêts à se faire payer pour tester. Dans la conjoncture actuelle, on va en trouver, mais ça va être qui ? Les plus démunis, c'est pas non plus très éthique. Alors les plus extrêmes nous disent qu'il n'y a qu'à prendre des prisonniers, les violeurs, etc. Mais ça marche pas. On est dans un pays civilisé, ça marche pas comme ça. Donc il faut tester sur du vivant de façon raisonnable, de façon bien calculée. Il faut savoir qu'on utilise en France 2 millions d'animaux chaque année pour la recherche. Sur ces 2 millions d'animaux, 60-70%, alors c'est pas un mais qui pardonne, mais 60-70% sont des rats, des souris qui ont été élevés pour ça et pour l'expérimentation. Un chercheur, quand il décide de lancer un programme aujourd'hui, il dit exactement ce qu'il va faire. Il écrit tout ça. D'abord, le Conseil d'État vérifie que ça n'a pas déjà été fait, ça n'a rien. Et il dit exactement que vous pouvez utiliser de rats, de souris, de chats, de chiens, de lamas, d'alpagas, jusqu'à l'étape finale, les primates. Et s'il passe toutes les étapes de sa recherche, il va à l'étape primate. C'est pour ça qu'on a aussi des fois des animaux qui arrivent qui n'ont jamais été utilisés parce que le programme n'a pas été au bout. Et dans tous les animaux qui sont utilisés, surtout la maladie d'Alzheimer et Parkinson, malheureusement, une majorité ne va pas ressortir du laboratoire parce qu'ils vont tester la toxicité, etc. Et c'est malheureux, c'est comme ça. Une partie, comme on disait, toute petite au départ, mais comme les langues commencent à se délier, elle est de plus en plus grande. Et puis qu'on a réussi avec les premiers, surtout. Une partie, au début, on avait dit c'est 15 par an, les primates qui peuvent ressortir. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est plutôt 150 que 15. Une partie capable de ressortir. Ils ressortent en bon état. Ils n'ont pas de problème de maladie ni quoi que ce soit. Leur seul problème, c'est le comportement. Parce que, je pense par exemple ma petite cannelle, ma petite chouchoute, qui est rentrée à 2 ans dans la cage de labo, une qui a sorti à 21 ans. Donc, elle a passé 19 ans dans la cage de labo. Elle a fait 3 cycles de travail. On lui a pris sa vie pendant 19 ans. Et elle n'en veut pas aux humains. Elle a encore 14, 15 ans à vivre. Si nous, les humains, on ne lui doit pas une future retraite, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Donc, elle et les autres, il y a tout dans les yeux de cannelle. Il y a l'histoire de la vie des humains, de tous ces animaux qui ne nous en veulent pas, quoi. Quand ils arrivent chez nous, le gros problème, c'est psychologique. Pour certains, quand ils arrivent, ils n'ont jamais vu un autre singe de leur vie. Ils vivent, ça va vivre 35 ans à un cac de laboratoire. C'est comme si un humain sortait à 40 ans du laboratoire et qu'il découvre qu'il y a d'autres humains, quoi. C'est le choc. Il découvre l'eau, l'air, le vent, la pluie, tout ça. Une autre vie, quoi. Une autre vie que le laboratoire. Donc, c'est psychologique. Et puis, surtout, normalement, les primates vivent en groupe. Et donc, nous, notre travail, c'est de reconstituer des groupes. Maintenant, voilà, on avance avec les laboratoires. On a réussi à ce que, dans la grande partie des cas, les animaux soient plus seuls. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà, on n'est pas en jugement. On avance progressivement, gentiment. À chaque fois qu'on prend les animaux, le laboratoire s'engage à fermer un peu le robinet, à en utiliser de moins en moins. Donc, ces singes de laboratoire ont pris une place vraiment importante, et à la tanière, et dans mon cœur. On a aussi récupéré des vaches de laboratoire, alors qu'on n'aurait pas récupéré si ces animaux avaient servi à produire plus de lait ou plus de viande, parce que c'est pas notre truc. Mais elles ont servi, elles ont travaillé sur la progestérone, elles ont servi à mettre en place de la contraception pour les humains. Et elles sont en pleine forme, c'est juste rigolo, enfin c'est pas rigolo, c'est comme ça. Ce sont des vaches blanches et noires qui devraient faire normalement 400 kilos, tout mouillées, et qui en font 900, mais qui sont en pleine forme, on croirait des monstres. Et on va leur assurer une retraite paisible parce qu'on leur doit bien. Alors là, on parle que des laboratoires pharmaceutiques. On n'aidera jamais les laboratoires cosmétologiques. Ça, il faut pour moi simplement arrêter. Donc là, les animaux de laboratoire qui arrivent chez nous. Et puis, diverses missions, comme là, récemment, a été sauvé deux fois des chevaux, deux gros troupeaux de chevaux. C'est des saisies aussi, mais hors norme. On récupère 70 chevaux étalons d'un seul coup. C'est un peu d'organisation, un peu de travail.
Comment ça se passe, ce genre de sauvetage?
On est prévenu. Alors quand c'est assez problématique parce que quand c'est des saisies, on est prévenu par les autorités. C'est compliqué pour les autorités parce qu'elles arrivent sur place, elles découvrent un petit singe ou un truc ou un animal qui est pas à sa place ou même là les chevaux. Après, il faut qu'il y ait une procédure juridique qui peut prendre du temps. Puis ils nous appellent avant pour savoir si on aurait la place pour prendre ça. Alors quand c'est des chevaux, etc., on trouve des solutions. Quand c'est un petit singe, un tigre, un lion, un bébé tigre, il faut qu'on passe par notre quarantaine. Alors, au moment où ils nous appellent, on peut avoir de la place, mais si la procédure prend 2 mois ou 3 mois. Souvent embêté. Là, les chevaux ont été prévenus peu de temps avant, la première saisie 1 mois avant, la deuxième 8 jours avant. Donc c'est une grosse mise en œuvre. On ne transporte pas 2 fois 35 chevaux comme ça avec une camionnette. Et souvent c'est du jour au lendemain. On nous appelle des fois le soir à 21h30, il y a un bébé caracat ou serval à Paris dans un appartement. Il faut débarquer, le chercher. Tout ça, c'est souvent, pas les chevaux là, mais tout le reste, c'est souvent l'argent qui mène tout ça. Les gens, on n'imagine pas ce que les gens peuvent inventer pour l'argent. Et les animaux sont une proie facile. Donc quand c'est les autorités, voilà comment ça se passe. Quand c'est des particuliers, etc., c'est aussi toujours dans l'urgence. C'est très rare qu'on ait un mois devant nous pour préparer le sauvetage. Quoi. Ça arrive une fois de temps en temps. C'est très rare. Et des fois, c'est en France, et des fois, c'est en Espagne, des fois, c'est en Italie, au Portugal. On peut partir n'importe où, comme ça, on décale, comme les pompiers, un peu, du jour au lendemain. Et là, toute la machine de la tanière se met en route. Parce que c'est important, c'est les gens qui viennent là-bas sur le sauvetage, mais aussi tous ceux qui restent ici. Parce que d'abord, il faut continuer à s'occuper des animaux ici. Et puis, il faut préparer tout ici pour quand ils vont arriver. Quand on doit accueillir des chevaux, comme ça, il faut trouver un champ, parce qu'on n'a pas la place ici pour les mettre. Donc, on cherche un champ quelque part, autour ou plus loin, que les gens nous prêtent. Ou nous loue, ça dépend des endroits, où il y a des gens qui peuvent s'en occuper. Là, par exemple, les derniers chevaux sont partis chez un monsieur qui est un éleveur de vaches et qui décide d'arrêter le monde des vaches, parce que de toute façon, les gens n'arrivent plus à gagner de l'argent aujourd'hui en France et puis en Europe avec ces élevages. Donc, nous, on va lui payer tous les mois une petite pension pour qu'il s'occupe de nos chevaux, ça lui fait un petit revenu et tout le monde est content. Donc, on trouve un champ très vite. On a la chance d'avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Dès qu'on passe un appel, ça tombe de partout. On trouve des champs, il faut les clôturer. Souvent, il faut les clôturer. Donc, on envoie une équipe tout de suite. Le dernier champ, c'était 3 km de clôture. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Il faut trouver la marchandise, il faut installer ça. Mais toute la machine tanière se met en route dans ces cas-là. Et puis, à chaque fois qu'on arrive sur place, on découvre les sauvetages. On croit toujours qu'on a atteint le plus moche de ce qu'on va voir. Mais c'est pas vrai. À chaque fois, c'est pire, presque. Là, les chevaux, c'était horrible. Comme une fois qu'on a été chercher 300 perroquets enfermés dans une maison. Dans une maison, 300 perroquets, on imagine la scène, un mouroir en réalité. Et voilà, donc la machine numéro 8. Et puis après, il y a le sauvetage et il y a le jour d'après. Il y a le jour d'après où il règne une espèce de calme, d'apesanteur sur la tanière. Tout le monde a le sentiment du devoir accompli. Les animaux sont sortis de là où ils étaient et on va pouvoir commencer à s'occuper d'eux. Le jour d'après, je l'aime autant que le jour d'avant.
Comment ça se passe une fois que l'animal est recueilli sur place à la tanière?
Il y a deux cas de figure. Soit il a besoin de soins. Là, par exemple, dans les chevaux, il y en avait 7 qui avaient besoin de soins vraiment importants. Ils sont arrivés ici. Tous les animaux qui arrivent ici, normalement, passent par la quarantaine, sauf les grands herbivores, etc. Donc, on a un grand bâtiment de quarantaine et c'est elle qui règle les entrées ici. On a, dans cette quarantaine, on a été 3 sous quarantaine. Parce que si, par exemple, il y a un animal qui est en quarantaine depuis 20 jours, s'il y en a un autre qui arrive par-dessus, tout le monde repart à zéro. La quarantaine, c'est 30 jours, contrairement à son nom. Donc, on a une équipe dédiée à la quarantaine, où il reste donc 30 jours. On a plusieurs protocoles de quarantaine, du bleu jusqu'au noir, si c'est d'une source inconnue complètement qui vient, qui a été saisie à Roissy ou ailleurs. Alors, il faut vraiment faire attention à tout. Cette quarantaine, elle est primordiale pour nous pour faire un check-up de l'animal qui arrive et protéger d'autres animaux. Quand on a un animal, un petit singe qui a été ramené sous le manteau, qui se fait attraper à Roissy, on ne sait pas ce qu'il peut porter. Là où la seule chose, c'est qu'on essaye d'obtenir une règle pour que les singes de laboratoire ne soient plus obligés de passer en quarantaine. Parce que par définition, on sait s'ils sont malades ou pas, ils sont sculptés tous les jours. Voilà. Mais malgré ça, on est obligé, par exemple, de passer ces singes en quarantaine, fait que là, aujourd'hui, par exemple, j'en ai 10 qui attendent, que je ne peux pas prendre, parce que ma quarantaine est occupée. C'est cette quarantaine qui règle tout. Donc, l'animal arrive en quarantaine, et ensuite, les soins s'il y a besoin, dans la quarantaine et après la quarantaine. La quarantaine va de 30 jours à 90 jours, suivant ce que c'est comme animal et d'où ça vient. Et ensuite, pendant ce temps-là, il faut préparer les enclos pour les mettre après la quarantaine, pour les mettre, les enclos adaptés. Un enclos pour un tigre, c'est un enclos pour un tigre. Et pour un singe, c'est encore différent. Là, on a des babouins, il faut un truc vraiment hyper solide. On va recevoir des chimpanzés bientôt, il faut un truc en béton, armé. Voilà, pour les éléphants, c'est pas une mince affaire. Sauf si les animaux viennent d'un parc zoologique, comme le cas des éléphants. Dans ce cas-là, ils sont déjà en quarantaine, ils ont déjà fait leur quarantaine, ils n'ont pas besoin de refaire de quarantaine.
Est-ce que l'animal reste chez vous ou est-ce qu'il est relâché par la suite ?
Relâché, c'est un grand mot. Ça nécessite toute une explication. Tous les animaux sauvages qui sont en captivité sont impossibles d'être relâchés. Il faut savoir, ils savent pas se débrouiller. Tous les doux rêveurs qui nous disent qu'ils vont relâcher les animaux qui sont dans les zoos, dans les cirques, c'est de l'utopisme total. C'est impossible. Les animaux, pour la plupart, ont été élevés au biberon, ne savent pas se nourrir, ne savent pas chasser, ne savent pas se débrouiller. C'est impossible. Si vous voulez relâcher des lions, des girafes ou des n'importe quoi, il faudrait 3 générations avant d'y arriver. Le seul animal qui pourrait être relâché, c'est l'éléphant. Qui pourrait être relâché plus facilement, parce que par définition, l'éléphant n'a pas de prédateur. Et elle arrive toujours, c'est un herbivore, elle arrive toujours à se débrouiller. Tous les autres qui chassent, c'est impossible de les relâcher. Ils sont nés en captivité, c'est pas nous qui les avons fait naître en captivité, donc on assure leur vie. Les seuls relâchages qu'on peut faire, c'est, et ça aussi, j'ai oublié, dans ce qu'on reçoit comme animaux, on reçoit beaucoup de prélèvements de la faune sauvage de nos alentours. Tous les ans, au mois de mai, au mois de juin, on a le même problème, les gens qui ramassent les bébés chevreuils. Parce qu'il faut savoir que la maman chevreuil, elle met son bébé là, dans les ronces, et elle s'en va à 200 mètres plus loin pour manger, pour pas qu'on sache où est son bébé. Et c'est l'époque où les gens se promènent dans la forêt. Donc ils viennent, ils ramassent le bébé chevreuil, croyant qu'il est abandonné. Et là, c'est signé son arrêt de mort presque à chaque fois. Ou un bébé renard, ou des sangliers, ou un bébé corbeau tombé du nid. Il ne faut pas toucher les animaux dans la nature. Il faut les laisser. Même si le corbeau est tombé du nid, sa maman, elle sait où il est, elle va venir le nourrir. Par exemple, je prends le chevreuil. Très souvent, si dans la nature, si la maman chevreuil, comme un bébé lion, comme les tigres, enfin, pas, peut-être non, pas les lions, les tigres, mais les léopards, par exemple, si la maman en a deux, voire trois dans certaines espèces, si la maman en a deux, elle sait qu'elle pourra en élever qu'un. Elle sait qu'elle pourra en ouvrir qu'un. Très souvent, la maman abandonne le garçon. Elle garde la femelle, pensant que c'est plus utile, c'est son choix. Mais il va trouver une mère substitution, il va se débrouiller. Il faut laisser faire. Jamais il est abandonné. Et puis c'est la nature. Il faut laisser faire la nature comme elle est. On s'en mêle déjà suffisamment à la nature. Donc il faut laisser faire comme elle est. Donc tous les gens qui ramassent ces animaux, qui se mettent hors la loi, qui vont avoir des PV, de toute façon, à la fin, et qui, on a eu le cas avec des renards, le jour, ce qui peut arriver le jour le plus malheureux de ce bébé renard, c'est le jour où il a croisé la personne, le chemin de cette personne qui l'a ramassé. Parce qu'en plus, le renard est classé comme un nuisible. Donc, si elle appelle les autorités, dans 90% des cas, il va être abattu. Si elle le cache, elle va se faire attraper. Et puis ça, c'est pas une vie. Un renard, c'est pas, elle vit pas dans une maison. Et puis, si elle arrive, par exemple, à sauver un bébé chevreuil, une fois sur 100, s'ils arrivent à sauver un chevreuil, au bout d'un an, le chevreuil, pour peu que ce soit un mâle en plus, il reprend ses instincts naturels, les bois commencent à pousser, etc. On était recherché chez des gens qui ne pouvaient plus sortir de chez eux, carrément. Et quand on reçoit ces animaux-là, on n'a pas besoin de les soigner, ils sont pas mal. On doit juste leur apprendre qu'on ne dort pas dans un lit, qu'on ne mange pas des biscottes, qu'on mange du foin, etc. Ça aussi, c'est très, 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 très important. On ne ramasse pas les animaux sauvages. Alors, les animaux sauvages, quand ils nous arrivent, dans certains cas, on arrive à relâcher. Si on trouve un animal blessé, vraiment blessé, oui, il faut s'occuper s'il est blessé. Mais pas juste parce qu'il est paresseux, etc. Souvent, on a des appels en disant, il y a un chevreuil là qui ne bouge plus, etc. On dit, attendez 24 heures, et souvent, 24 heures après, il est reparti. Si vraiment il est blessé, on garde ce qu'on peut faire à ce moment-là. On soigne et on relâche. On n'a pas le droit de garder ces animaux. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont été obligés de garder parce que c'était imprégné. On soigne et on relâche. Là, on a eu des petits chardonnerets, que du trafic. Les gens s'amusent à les attraper pour les revendre sur le bon coin, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais sur Internet. En plus, ils attrapent avec des méthodes sauvages, avec de la colle, avec de la glu. Donc ces animaux-là, les gens ont été attrapés, ils ont été saisis. Ça, on relâche. Donc quand on peut relâcher les animaux de nos faunes locales, on relâche. Des hérissons. Souvent, les gens nous amènent des hérissons, parce qu'à un moment, c'est fait écraser. Donc, OK, on soigne, on nourrit, et dès que l'hérisson atteint son poids, où on peut le relâcher, c'est-à-dire 800 grammes, 1 kg, hop, on relâche. Mais dans ce cas-là, ces animaux-là, on essaye d'avoir le moins possible de contact avec eux. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à manger comme ça, on ne touche pas, on n'approche pas, pas du tout de contact pour pouvoir les relâcher, et ils font leur vie. Et puis, on a un certain nombre de parcs autour. On a placé déjà des chevaux, des daims. On a 2 parcs canins. On a en tout 70 daims placés dans 2 parcs. On a un certain nombre de parcs comme ça que des gens nous ont prêtés ou qu'on a loués et dans lesquels on peut aussi relâcher. On a été, l'autre jour, nous avons amené un écureuil parce qu'il faisait l'objet de trafic. Les gens les capturent aussi pour les revendre. Dans ce parc-là, on peut le relâcher. On sait qu'il n'y aura personne qui va venir, etc. Il n'y aura pas de chasseurs, il n'y aura pas tout ça. Donc, on le relâche. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Hein. On n'est pas opposé à la chasse pourvu qu'elle soit faite de façon intelligente, et puis elle sert aussi à réguler certaines espèces. S'il n'y a pas de chasse, les sangliers, ça serait une grosse catastrophe partout.
Combien d'animaux vous recueillez chaque année ?
Il y a un an et demi, à peu près, on a dû, oui, ça, 923, je ne sais pas s'il y avait les chevaux là-dedans ou pas. On est à 1000 maintenant. Alors ça va dans ces 1000, il y a eu 200 perroquets. Alors un perroquet, on arrive assez facilement à les replacer. Alors ça arrive déjà vite, hein, 200 perroquets, 70 chevaux, des daims par un pot de 20 ou 30 à chaque fois. 900 depuis un an et demi, deux ans à peu près. Mais ça accélère, si on prend ces deux derniers mois, ça doit plutôt être 400-500.
Ça s'accélère avec le confinement ?
Alors ça accélère d'une part avec le confinement, bien sûr. Et puis ça s'accélère d'une part parce que aujourd'hui on est connu et que pour beaucoup d'animaux, avant il n'y a pas de solution. Si je prends l'exemple de ces chevaux, dans le premier sauvetage, il y avait 110 chevaux. C'est une secte qui avait ces animaux à l'abandon, complètement, enfin, mal en point et tout. 110 chevaux, il y a l'association Brigitte Bardot qui a pris les plus âgés, ceux qui étaient castrés. Il y a la SPA qui a pris les femelles et les bébés. Et ça, c'était en place depuis longtemps, ça aurait pu se faire, mais il n'y avait personne pour prendre les 35 étalons. 35 étalons, personne n'en veut. Surtout quand, tant que la justice n'est pas passée par là, on n'aura pas le droit de les castrer ni quoi que ce soit. Nous, en prenant ces 35 étalons, en réalité, on a débloqué toute une situation. Comme une fois, il y avait un cirque en Espagne, non, en Italie, pardon, qui avait 8 tigres. Et il y aurait eu des os pour prendre ces tigres, sauf qu'il y avait pas, dans les 8, il y avait un tigre méchant, agressif, parce qu'il y avait un problème. Ben, nous, notre travail consiste à aller chercher juste le méchant, on prend le méchant, et comme ça, il peut placer les 7 autres. Voilà. Donc des fois, avec une petite opération, on arrive à débloquer des grosses situations.
Comment se passe la cohabitation entre les différents animaux sur le refuge ?
La cohabitation se passe bien. Il y a un phénomène extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'arrivent des nouveaux venus, à chaque fois qu'arrive, que ce soit un ours, un cheval, un chameau, un singe, il se passe un truc. Je ne sais pas dans quel langage, par quel signe, ils se parlent. Tout le monde regarde d'abord, tout le monde est tourné dans le même sens, et regarde la camionnette ou l'animal qui arrive, ça. Et on a l'impression qu'ils lui disent, ou qu'ils leur disent, eh ben, tu vas être bien ici, quoi. Je prends l'exemple d'un jour d'une petite ponette qu'on avait été chercher dans un endroit, elle était donnée pour morte, elle ne bougeait pas, etc. Là, ici, on a acheté dans le champ, on s'est mis à courir. C'est souvent comme ça. Ça se passe souvent comme ça. Les oncles de ces chevaux, par exemple, qui n'avaient jamais mangé d'herbe de leur vie, ils découvrent l'herbe. C'est un bonheur. Tous les animaux s'entendent bien. On fait attention. On va pas mettre les daims à côté des lions. Voilà, faut faire attention. Il faut les enclos qui vont bien, les séparations qui vont bien. Mais ça se passe très, très bien. Et même au contraire, je prends le cas de nos éléphants. On a eu nos éléphants qu'on aura, nous, c'est que des mâles, parce qu'il n'y a que des mâles à récupérer. Normalement, c'est très compliqué de mettre les mâles entre eux, ça. Par miracle, au bout de 2 heures, ils étaient ensemble. Comme s'ils savaient qu'ils arrivaient dans le même endroit pour la même destinée.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien sur la tanière ?
Le matin, vers 6 heures, chez moi, sur mon ordinateur, je commence. Ici, il y a le briefing à 8 heures tous les matins, avec tous les soigneurs. Sauf le jeudi où il y a un briefing plus complet avec tous les techniciens, etc. On fait le point tous les matins à 8 heures sur tout ce qui s'est passé, ce qui se passe, les soirs, etc. Ensuite, moi, je fais le tour du chantier, parce qu'on est toujours en chantier. Je fais le tour de toutes les équipes sur les chantiers, etc. Une grosse partie de mon temps est consacrée à la coordination du chantier. Je vais souvent ensuite, dans le milieu de la matinée, à mon bureau pour travailler. Il y a plein de choses à régler, administratifs, plans, etc. Souvent, après des réunions avec les architectes, les entreprises, etc. Et l'après-midi, enfin, quand je suis libéré de ces tâches administratives, etc., je suis très souvent sur une pelleteuse, un dumper ou en d'un poteau en train d'attacher des grillages. C'est le moment de la journée que je préfère. Et puis, après, il y a le soir. Alors, il y a le soir, l'été et l'hiver. L'hiver, ça tombe plus vite, mais l'été, ou le printemps, ou l'automne, vers 18h, 19h, quand tous les soigneurs sont partis, etc., il y a un moment de calme ici, extraordinaire, où tous les animaux en profitent pour se réveiller. Alors, l'hiver, c'est moins facile, tout le monde est rentré. Mais l'été, ils sont dehors. C'est là au moment où les perroquets chantent, etc. C'est le moment où les daims se mettent à courir, où les chevaux se mettent à courir, où les ours se mettent à jouer dans l'eau, les tigres, les lions, etc. Parce qu'ils ne sont pas encore rentrés, à ce moment-là, où des fois, ils peuvent rentrer, ils sortent comme ils veulent. Il y a ce moment-là du soir que j'adore aussi. Et puis après, ma vie perso, quand je rentre chez moi. Mais le téléphone continue à sonner. H24.
Alors le zoo est ouvert au public, comment est-ce que cela se passe ?
Alors le zoo sera ouvert au public, oui. Ici, tout va fonctionner comme un zoo classique, sauf que les animaux, les gens verront des animaux issus de sauvetage, de récupération, de laboratoire, etc. Pas une collection d'animaux qu'on a choisi, on ne sait jamais ce qui va arriver. Ils verront des animaux qui ne verront pas les mêmes l'année prochaine parce qu'avec un peu de chance, ils ont été replacés. Et puis, il y aura la boutique avec les nounours, les puches, etc., les restaurants, etc., tout comme dans un normal, mais avec un but important, c'est la pédagogie. Et notre cible, c'est les enfants, les 8, 10, 12 ans, pour leur expliquer qu'on ne ramasse pas les animaux, qu'on ne prend pas un animal à Noël pour l'abandonner au mois de juillet, qu'on ne va pas se faire prendre en photo sur une plage avec un bébé lion ou un bébé tigre, qu'on ne va pas ensuite dans une boîte de nuit se faire prendre en photo avec un animal, parce qu'un bébé lion ou un bébé tigre, pour 3 mois de sa vie, où il a fait des photos, sa vie est foutue. Voilà, pédagogie pour leur dire qu'on ne les ramasse pas dans la forêt, pédagogie pour leur dire que ce sont des êtres vivants, Et là où il y aura donc des panneaux partout, des dictaphones, etc., et beaucoup de visites guidées pour expliquer aux gens. Je prends souvent l'exemple des animaux de laboratoire. Quand les gens, on a pu ouvrir là, 10 jours, vacances de la Toussaint, on a dû refermer comme tout le monde. Quand on faisait des visites guidées, et quand on arrivait près des singes de laboratoire, les gens ont plus tendance à arriver avec une idée, c'est affreux, il ne faut pas faire ça, machin, etc. Et puis nous, voilà, on n'est pas dans le jugement, on explique. On explique aux enfants, et même aux plus âgés, c'est le seul endroit où même les adultes repartent avec une réflexion, que les animaux qui sont devant eux ont travaillé principalement sur la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Que les enfants qui sont là ont tous des parents, des grands-parents, et pour certains des arrière-grands-parents. Que malheureusement, certains nombre de ces gens-là seront atteints par une de ces deux maladies, Alzheimer ou Parkinson. Et que peut-être, grâce à Canel, Arthur, Gromit, tous les singes qui sont là, peut-être ils pourront profiter un peu mieux de leurs grands-parents. Peut-être leurs grands-parents ou leurs parents vivront mieux leur maladie. Voilà. Nous, c'est tout ce qu'on leur dit. Après, les gamins repartent avec ça, ils se font leur idée, ils se mettent à cogiter. C'est juste ce qu'on veut déclencher, nous. Voilà. On ne dit pas que c'est bien ni que c'est mal. On explique la réalité, comment ça se passe. Bien évidemment, dans les labos, il y a des enjeux économiques. On l'avait vu là, vous savez, j'ai parlé l'autre jour avec un responsable d'un très gros laboratoire, un des plus gros, qui me disait, avant la Covid, on recevait entre 150 et 200 mails ou coups de fil par jour pour se faire insulter d'utiliser des animaux. Depuis la Covid, si on en soit 10, c'est le maximum. Ça veut dire que l'être humain est quand même comme ça. Pas d'animaux, sauf que là, ça peut peut-être servir, quoi. Les laboratoires, en plus, en ce moment, enfin là, depuis un peu, enlèvent un certain nombre de primates qui sont dans les laboratoires pour les remplacer pour les animaux pour travailler sur le vaccin à la Covid. Donc, voilà. Donc, l'humain n'est pas toujours non plus très en phase avec ce qu'il pense. Mais on ne juge pas, c'est comme ça, et puis c'est normal. Il y a une maladie, personne ne veut mourir, tout le monde veut être soigné. Voilà, faut faire. C'est jamais tout blanc et tout noir. Un jour, on était appelé pour des daims, donc des bambis, à côté de Belfort. Les réseaux sociaux nous appellent. Il y a un papy très gentil à Belfort qui a 32 daims. Mais les animaux sont pas en règle, ils n'ont pas de papier, etc. La préfecture a pris la décision d'abattre tous les daims. Alors, les réseaux sociaux se déchaînent en disant oh, c'est dégueulasse, s'il faut abattre tous les sans-papiers, moi j'en connais, on fait des trucs pas possibles. Et puis nous, on prend la voiture, c'est un samedi soir avec mon épouse. On va à Belfort. Le lendemain matin, on arrive à Belfort, on contacte ce monsieur avant, ça. On arrive, on lui fait un papy gentil, 75 ans, tous les papys sont gentils. Devant nous, 32 daims. Dans les 32 daims, un grand mâle, un petit mâle de l'année et 30 femelles. Et alors là, on pose des questions, on dit, mais il y a longtemps que vous avez des daims? Ah bah oui, ça fait 20 ans que j'ai des daims. Et vous avez toujours le même nom? Oui, toujours le même nom. Alors le mâle, il est stérilisé? Non, il n'est pas stérilisé. Donc il devrait y en avoir 300, quoi. On dit, comment vous faites pour avoir le même nom? Et le papy nous explique, ben, on vient tous les mois avec le fusil, paf, on en prend, on fait du pâté, et tout le village en mange. Mais on est malade, hein. Forcément, il n'y a aucune prophylaxie. Hein. Alors on part de là, on est revenu après, récupérer les dents saisies, etc. On a tout emmené les dents, etc. Mais on ne peut pas juger, on ne peut même pas balancer la vérité parce qu'il va se faire lyncher. Et on ne veut pas juger, on est dans la ruralité la plus complète. Ils mangent des dents comme d'autres mangent des poulets ou des lapins, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, on est au 21e siècle, il y a autre chose à manger que des daims, mais lui, il est resté sur cette phase-là. Voilà. Donc, pourquoi on ne doit pas être dans le jugement, c'est ça. Et pourquoi les histoires qui nous arrivent ne sont jamais les vraies. Il faut toujours creuser, il y a toujours autre chose derrière.
Vous parlez d'individus et non d'animaux, ils ont d'ailleurs tous un nom. Pourquoi? Et pourquoi ne pas proposer de spectacle?
Ils ont un prénom plutôt, parce qu'ils n'ont pas de nom et de prénom. Parce que c'est des êtres vivants, quoi. C'est des êtres vivants. Alors, on n'est pas en train de dire ils sont égaux, supérieurs, inférieurs à l'homme, etc. On fait partie, nous, des animaux, de toute façon. On fait partie de cette chaîne alimentaire. Moi, personnellement, je mange de la viande. Ça me paraît évidemment normal. On fait partie de cette chaîne. D'abord, il y a le côté pratique. C'est quand on dit aujourd'hui, tiens, Canel est malade, ou Zouina a ça, ou Léon, il faut lui donner tel médicament. On sait de qui on parle, déjà. Et puis, je ne sais pas comment ils se rendent compte ou pas, mais ils savent qu'on s'adresse à eux quand on parle avec leur prénom. C'est le prénom qu'ils ont toujours eu. Et s'ils n'en ont pas, quand ils arrivent, comme souvent les singes de laboratoire, ils ont des numéros, ben on leur donne des noms, on demande aux enfants ou sur Internet, aux gens sur les réseaux sociaux de trouver des noms. Ça me paraît évident qu'ils bougent, ils sont vivants, qu'ils aient un nom, qu'ils aient un prénom. On accorde autant d'importance, nous, ici, à un écureuil qu'à un éléphant. Bien évidemment, les gens qui ont des animaux chez eux, s'ils ont une poule chez eux, etc., ils vont se poser la question de savoir s'il faut dépenser 300 euros, 400 euros pour soigner la poule. Ils se la poseront un peu moins pour un chien et un peu moins pour un cheval. Bon, mais c'est comme ça un peu. Oui, ils ont une vie, ils ont une existence et ils ont surtout tous une histoire. Ils ont tous une histoire. Alors pourquoi pas le spectacle? Parce que d'abord, premièrement, on pense que ce n'est pas naturel pour un animal de faire du spectacle, même si ceux qui en font aujourd'hui dans les cirques n'en souffrent pas. Et d'ailleurs, à tel point, c'est que quand on recueille des animaux issus du cirque, aujourd'hui, le travail du spectacle leur manque. On est obligé de travailler avec eux, de d'autres façons, mais pas au spectacle, mais travailler avec eux. Nous, tout ce qu'on fera en démonstration ici, c'est la démonstration de medical trading. Tout le soir, nos animaux ici, basés sur medical trading. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des prises de sang à un éléphant, à un lion ou à un tigre, sans l'endormir. tout le monde. On a d'abord les gens à quarantaine qui, pendant un mois, font un très, très gros travail, et puis après les soigneurs qui font un travail. Il faut savoir qu'on est obligé d'avoir à peu près deux fois plus de soigneurs qu'un parc animalier normal, parce que nos animaux ont besoin de soins, ont besoin de contact. Un animal qui a été toute sa vie avec son dresseur dans un cirque, qui a travaillé tous les jours, si du jour au lendemain on le met dans un grand parc et qu'on le lâche, il va être perdu. Il va se laisser mourir. Un animal de laboratoire qui sort d'une petite cage, si demain on le met tout seul dans un grand espace, il va mourir aussi. Donc on y va étape par étape, des cages de plus en plus grandes, etc. Mais toujours avec le contact humain. L'animal de laboratoire était habitué de voir les humains tous les jours. On prend aussi souvent le cas des perroquets. Le perroquet, c'est très spécial. Le perroquet tombe très souvent amoureux de son propriétaire, et plus particulièrement des garçons. C'est-à-dire, un perroquet tombe amoureux du garçon à chaque fois. Donc nous, on essaye de ne pas mettre de garçon, etc. Si on ne passe pas du temps avec eux, pareil, ils vont se laisser mourir. J'ai eu le cas il y a quelques jours d'une dame qui m'a appelé en disant « j'ai un perroquet chez moi ». Quand mon mari n'est pas là, ça va très bien, le perroquet se bat dans la maison, il est gentil, etc. Dès que mon mari est là, le perroquet il me détruit, il me tape dessus. Et elle m'a appelé en me disant « je dois me séparer d'un des deux ». Bon, elle a gardé le mari. Donc pas de spectacle, mais des démonstrations de medical training. D'abord parce qu'on en a besoin. On en a besoin, nous, quand on a besoin. Je prends les éléphants, tous les jours on regarde leurs dents, on prend leur température, on regarde leurs pattes. C'est pas le jour où il y a un problème qu'on va y apprendre à ouvrir sa gueule. Il faut qu'on puisse le faire avant. Et avec tous les animaux, c'est pas le jour où on a besoin de faire une prise de sang qu'on va se dire tiens, ben on va le fléchir, on va l'endormir. C'est trop dangereux. Nos otaries, si on devait les endormir, c'est une catastrophe d'endormir un otarie. Il a un système respiratoire tellement compliqué, à vivre sous l'eau et dans l'air, que si on l'endort, on a 50% de risque de le perdre. Donc heureusement qu'on fait du medical training, mais il ne faut pas oublier que c'est le cirque qui a inventé le medical training. C'est le cirque qui a inventé ça. Les vétérinaires, aujourd'hui, quand ils vont dans les cirques, la plupart du temps, ils font ça, des prises de sang ou des soins sans endormir. Donc on a cette chance d'avoir aussi des gens assez qualifiés pour ça. Et le spectacle, c'est, même si c'est vrai que les otaries adorent jouer avec un ballon, on leur met des ballons dans leur bassin. Ils ont des ballons, mais on ne joue pas avec eux, on les joue entre eux. Les otaries, entre eux, ils jouent avec le ballon entre eux, s'ils ont envie de jouer. Mais nous, voilà, on ne va pas leur apprendre à faire des choses. Même si, chaque fois, quand on donne à manger, etc., ben, y a un rituel. Donc les animaux le savent très bien. D'abord, ils voient passer les voitures des soigneurs, ils savent que c'est l'heure de, ils savent que c'est l'heure de manger, ils savent reconnaître telle voiture ou telle voiture. La voiture électrique ne fait pas le même bruit que la voiture. Ils savent si c'est pour eux la bouffe ou pas. Donc, ils se créent une routine, forcément. Ils se créent une routine. Mais ce n'est pas du travail. C'est un respect pour eux, comme le fait de leur donner un nom, c'est un respect pour eux. Le fait de ne pas les faire travailler quand nous, on a décidé, c'est-à-dire que, par exemple, nos otaries, c'est vrai que dans beaucoup de parcs, ben, ils savent qu'ils vont travailler à 14h, à 15h, à 16h, vous rentrez, il y a marqué « spectacle des otaries » à telle heure. Comme ils étaient habitués à ça tout le temps, ils ont besoin de se remarquer avec tous ces animaux. Mais on pense qu'on peut faire sans, oui.
C'était Patrick Violas, fondateur de La Tanière. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un zoo comme les autres. Se voulant refuge, La Tanière fonctionne principalement sur les dons. En cette fin d'année, n'hésitez pas à faire un petit geste envers cette association pour que nos chers amis les bêtes puissent continuer de s'y épanouir, le temps de se soigner ou le temps d'une retraite bien méritée.
Thank you.
Et maintenant, je vous l'avais promis, embarquons dans la voiture de Sophie Fernandez Petitot,
chargée de communication pour la tanière.
Marchez dans mes pas, d'enclos en enclos, pour découvrir la tanière au plus près des animaux. À peine montée dans la voiture qu'un premier arrêt s'impose. Vous l'aurez reconnu, nous sommes dans l'enclos des éléphants. Les deux animaux courent se mettre à l'abri, sous les ordres de leurs soignants, à l'intérieur de leur petit cocon. Course impressionnante, les éléphants sont majestueux.
Nos deux gros loulous qui, comme vous pouvez le voir, savent courir et aller vite quand ils le souhaitent.
Ces deux gros loulous, comme Sophie les appelle, ce sont Rajendra et Senai, deux éléphants d'Asie.
Ces deux éléphants qui sont arrivés début septembre, qui nous viennent donc de deux parcs zoologiques différents. Le premier, celui qui est arrivé en premier, c'est le plus jeune. Il a 5 ans. Il nous vient du parc de Rotterdam. Il a été sorti de son groupe par le coordinateur européen du programme de préservation et d'élevage de cette espèce, parce qu'il était dans un groupe où il n'était qu'avec des femelles de sa famille. Il va grandir, hein, un jour il va vouloir lui aussi se reproduire. Et donc le but étant de préserver la génétique de cette espèce et donc d'éviter qu'il y ait un risque de consanguinité. Et le deuxième qui est arrivé donc lui 72 heures après et qui lui nous vient du parc zoologique de Cologne qui a 9 ans. Lui, c'était une problématique différente. Il était dans un très, très grand groupe, mais du coup, il y avait beaucoup de mâles pour peu de femelles et il commençait à y avoir un petit peu de tension au sein du groupe. Donc, pareil, pour son bien-être, il a été décidé de le placer ici. Et puis, on est tous super contents parce qu'en fait, lorsque Rajendra est arrivé, en moins de 2 heures de temps, on avait du trompe à trompe entre les deux éléphants. Le petit s'est soumis au plus grand et aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux frères qui cohabitent.
Dans leur enclos intérieur, les éléphants ne s'ennuient pas. Ils ont leur jouet à eux, comme cette grosse balle blanche.
Une petite dispute.
Il est donc grand temps pour nous de laisser ces deux pachydermes tranquilles. D'autant plus que d'ici 2021, un de leurs confrères devrait les rejoindre. L'équipe s'organise dès à présent pour que le petit nouveau soit accueilli dans les meilleures conditions possibles. Nous passons rapidement dans les parties off de la tanière que vous, chers auditeurs et auditrices, n'aurez pas la chance de voir. Cela permet aux soigneurs de circuler facilement sur le site et c'est également toute la partie en construction. Au loin, nous pouvons apercevoir le futur enclos des fauves. Chaque enclos a une partie intérieure et une partie extérieure. Les animaux y sont en constante stabulation. Ils rentrent et sortent comme ils veulent, de jour comme de nuit, sauf en cette période hivernale où les portes sont fermées la nuit. Mais pour aller plus loin dans le bien-être de l'animal, des enclos de retrait sont aussi créés.
À chaque enclos, on installe un endroit qu'on appelle de retrait, de façon à ce que si l'animal, pour une raison X ou Y, ne souhaite pas se présenter au public et est en stabulation libre, mais ne souhaite pas non plus rentrer forcément à l'intérieur pour ne pas voir le public, de façon à ce qu'il puisse naturellement se cacher. Vous avez des parcs animaliers où, quand vous y allez, vous arrivez en face de la vitre et systématiquement, vous avez le gros lion qui est en face de vous et tout le monde trouve ça merveilleux. Et oui, mais en hiver, le rocher est chauffé et en été, le rocher est réfrigéré. Nous, on n'aura pas ça. Nous, il y a des rochers. Après, ils choisissent. Ils se mettent dessus, ils se mettent dessous, ils se mettent devant, ils se mettent derrière. Ils font leur vie.
Un peu plus loin, c'est une autre espèce qui nous attend.
Les babouins de Guinée, qui sont des animaux pas forcément faciles. C'est un groupe de 15 constitués, qui normalement arrive à la tanière en début d'année dans le cadre d'un accueil dit temporaire. Là, en l'occurrence, on est sur la citadelle de Besançon, qui nous a confié ces animaux-là parce que la citadelle avait des gros travaux de réfection à faire au niveau de la citadelle qui était classée UNESCO et qui aurait pu perdre son label UNESCO. On a accueilli ces animaux-là donc de façon temporaire au départ. Et puis, malheureusement, on a appris assez récemment, suite à un changement de municipalité, puisque ce parc zoologique est municipal, que la municipalité qui avait investi beaucoup d'argent pour faire refaire la citadelle ne souhaitait pas avoir la même chose à faire entre guillemets d'ici 3 ans quand les babouins auraient à nouveau été en contact avec la citadelle Et donc, nous les a gentiment laissés. Charge à nous de leur trouver du coup un logement, de leur bâtir un logement. Un logement bien évidemment extrêmement solide, parce qu'on a affaire là à des animaux qui ont une force extraordinaire, qui aiment beaucoup éprouver les structures en général, et on l'a vu, hein, ils ont déjà réussi à nous dessouder une trappe une fois. Donc, et puis sur un groupe de 15, quand il y en a un qui s'épuise sur la trappe, il y a le petit copain de derrière qui généralement vient pour essayer à son tour. Là, on a un joli groupe de 15 babouins à qui, du coup, on est en train de fabriquer un enclos puisque ils sont arrivés chez nous, mais il n'y a pas de départ de prévu.
Nous sortons à peine de la voiture pour aller à leur rencontre que les quelques babouins qui étaient dehors rentrent se cacher. En réalité, ils vont prévenir leur chef. Des éclaireurs viennent ensuite voir qui nous sommes. Nous pénétrons dans l'enclos, passage obligatoire par le bac d'eau. Les babouins me fixent, ils regardent avec curiosité mes appareils. À la main, je tiens mon enregistreur et mon appareil photo. S'ils ne sont que trois au départ, très vite, ils sont une petite dizaine à m'observer. C'est l'observatrice qui est observée. Les babouins se mettent à secouer le grillage.
Tout ce matériel-là, au niveau des commandes des grillages, tout est fabriqué ici en interne. On achète le matériel et tout est fait par nos ateliers, au niveau des soudures, parce que comme dit Patrick souvent, on a confiance qu'en nous-mêmes.
En effet, rien ne résisterait très longtemps à des animaux aussi futés. En face d'eux, ce sont de gros chats qui prennent leur goûter.
Ouais, ma fille.
César et son congénère sont des caracals. À la croisée entre le lynx et le chat savana, cet animal ne perd rien de son côté sauvage. À l'allure magnifique, il est très territorial. Sophie nous explique que c'est très dangereux d'en avoir un chez soi. D'abord, c'est illégal, mais en plus...
Et vous laissez ça dans votre salon, un jour vous ne mettez plus les pieds dans votre salon ni les fesses sur votre canapé parce que lui a décidé que c'était à lui.
Nous faisons un arrêt face à un bâtiment dans lequel on ne peut pas entrer. C'est le cœur du dispositif, comme le dit Patrick Violas. La quarantaine. Sophie nous en parle.
On a deux parties de quarantaine. Une quarantaine un peu classique et là ce qu'on appelle la quarantaine qui peut être dite noire. Cette partie-là, on a des petites loges à l'intérieur où on peut accueillir de petits animaux en les séparant les uns des autres assez facilement. Sur des quarantaines classiques, là aujourd'hui on a nos singes de laboratoire qui sont dedans. On en a 6 actuellement. Sur l'autre partie de quarantaine, on a un bâtiment avec des loges intérieures qui, elles, sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, qui nous permettent donc d'accueillir des animaux beaucoup plus gros. Et en l'occurrence, là, aujourd'hui, on a donc un ours des Pyrénées qui est à l'intérieur. On appelle cette partie de bâtiment également la quarantaine noire, c'est-à-dire que c'est un bâtiment où, si un jour on se retrouve en présence d'un animal qui présente un virus dangereux, on peut rentrer d'un côté du bâtiment, s'équiper entièrement, bien évidemment, pour se protéger, aller prodiguer des soins et nourrir l'animal, et ressortir entièrement de l'autre côté après s'être intégralement changé et douché.
Pas très loin se trouve la clinique vétérinaire. À l'entrée du bâtiment se trouve inscrit en rouge le mot « hôpital », où à l'intérieur il y a un bloc opératoire et une zone de radiologie. Quelques mètres plus loin, c'est écrit « salle d'autopsie ». Comme tout parc zoologique, la tanière peut voir certains de ses pensionnaires mourir et doit être en capacité de pouvoir l'expliquer. Ce fut le cas très récemment avec Sarah, le bœuf écossais. Mais ce n'est pas là que nous nous rendons. Nous poussons les portes et nous rentrons dans la clinique, direction la nurserie.
À peine rentrés, nous nous faisons surprendre par un perroquet arabe bleu en liberté.
Ce n'est pas elle la vedette du jour, mais bien Capucine juste en face. Capucine est un tout petit singe. Elle a été saisie chez un couple chez lequel elle était maltraitée car elle vivait dans une toute petite boîte. C'est ce qu'on appelle de la maltraitance passive. Après avoir vu le plus gros animal de la tanière, nous voici donc face au plus petit. Mais il ne faut pas trop s'attarder, Blandine la nounou doit prodiguer des soins à la petite Capucine. Nous reprenons la voiture et direction un nouvel enclos où se cachent deux compères. Il s'agit de Léo et Zampa. Ce sont deux lions mâles, sans crinière. dégriffés et castrés dès leur plus jeune âge, dans le but de permettre aux touristes de se prendre en photo avec eux sur les plages d'Espagne et en boîte de nuit, ces lions en payent encore le prix aujourd'hui. Leurs yeux sont défaillants suite aux flashs incessants et amputés de leurs griffes, ils boitent et multiplient les infections aux pattes. Pourtant, ce duo inséparable reste très joueur.
Et alors, ils sont drôles parce qu'ils ont des pneus pour jouer dans leur enclos. Et alors, bien souvent, l'un comme l'autre d'ailleurs, pas plus Léo que Zampa, mais bien souvent, ils se mettent le pneu autour de la tête. Sauf qu'ils peuvent pas l'enlever parce qu'ils ont pas de griffes. Donc ils se reconstituent une pseudo-crinière avec un pneu.
Sur la route pour une nouvelle découverte, nous nous arrêtons un instant pour regarder Gypsy.
Gypsy qui est un peu un de nos animaux emblématiques à la tanière. Gypsy, c'est une vieille chamelle qui faisait partie d'un petit cirque itinérant. Et puis, en descendant du camion, malheureusement une fois, elle est tombée. Elle s'est fracturée le genou et elle est depuis lourdement handicapée. Donc, son patron de cirque, plutôt que de continuer avec elle sur les routes de France et de Navarre, a préféré nous la confier.
Ces grognements que vous entendez, ce sont les ours, notre prochaine destination. Pour eux aussi, c'est l'heure du goûter. Canaille et Cannelle, les ours vedettes, se laissent facilement approcher par les humains. Leurs soigneuses rentrent dans leur enclos pour les nourrir. D'ailleurs, sur le chemin de l'allée, nous sommes passés devant le futur enclos de l'ourserie. Retour en arrière. Nous voici donc à nouveau dans la voiture, en face d'un bâtiment un peu étrange.
La grande structure que l'on aperçoit avec ces grandes plaques de béton au loin, c'est la future ourserie. Donc c'est là où seront aujourd'hui sur le parc, on a 6 ours. 5 qui étaient là depuis un certain temps et un 6e qui vient de nous rejoindre, qui était dans un petit parc animalier dans le sud de la France, qui va venir grossir les rangs du petit groupe qu'on avait. Donc là, on va avoir la future ourserie. Quelques caractéristiques. D'abord, on va avoir un petit bâtiment que l'on va aménager à l'intérieur pour eux comme une tanière. Et avec un système de vitrage particulier, les gens pourront les observer quand ils seront dans leur tanière. Entre les plaques, là, vous voyez qu'il y a des jours. Sur ces jours-là également, on aura du vitrage de façon à pouvoir les observer. Les observer sans trop les déranger non plus. C'est pour ça qu'il y a plus de parties bétonnées depuis l'extérieur pour nous que de vitrages. C'est pour qu'on les dérange le moins possible, en fait. C'est pour que la cohabitation se passe bien. Et puis, un petit peu plus dans le renfoncement là-bas, vous pouvez apercevoir trois petites rangées, là, très fines, là, sur le côté, sur le grand pendure qui se trouve tout. Et là, par contre, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre un système de grillage très fin dans cet endroit-là, de façon à ce que les gens puissent sentir les ours. Les sentir et également les écouter.
Retour au présent. Nous sommes donc en train d'assister au goûter des ours. Mais si j'ose le dire, ce n'est pas l'élément le plus impressionnant de ce bâtiment. Nous sommes au beau milieu de 3 enclos, l'un avec 2 tigres, l'un avec une lionne féroce et un lion plus tranquille, et le dernier avec une tigresse. L'ambiance est tendue, être aussi proche de ces animaux me fait de l'effet. Si je suis un peu angoissée au départ, Sophie parvient à me mettre en confiance en nous racontant l'histoire de ces fauves.
Ici, on a Pam et Firmin, qui sont 2 tigres qui ont été récupérés. Enfin, c'est un cirque qui nous les a ramenés. Là-bas, vous avez un des rares animaux qui nous vient d'un parc zoologique, c'est la vieille lionne, Zouina.
Très caractérielle, la lionne partage tout de même sa loge avec un jeune lion de 7 ans, Nal. Et dans le dernier enclos se trouve Xena. Elle a été trouvée abandonnée dans un camion-cage au Portugal, en compagnie d'une autre tigresse, Isabella. Si toutes deux arrivent au refuge maigres et très nerveuses, elles sont aujourd'hui en pleine forme et bien plus paisibles. Mais les 2 tigresses sont bien des tigresses, puisqu'aujourd'hui, ne s'entendant plus très bien, elles ne partagent pas le même enclos. Ce qui, en réalité, aurait été le cas dans la nature.
Qui se trouvent ici sont essentiellement des perroquets et des perruches que l'on a donc récupérés dans la fameuse maison où étaient entassés plus de 300 oiseaux. On a quelques individus également qui nous viennent de saisie, qui nous ont été apportés par l'Office français de la biodiversité également. Et puis on a différentes espèces. Donc là en face de nous, on a essentiellement des yuyus du Sénégal. Sur le côté là-bas, on a des gris du Gabon. On a également des haras. Des grands haras, ararona, donc les bleus et jaunes. Et on en a un qui est tout vert, qui est un hara militaire. Et de l'autre côté, on a aussi des petites perruches, type conure soleil, et puis également des cacatoès.
La tanière recueille donc de nombreux oiseaux, dont certains laisseront un beau souvenir dans les mémoires de leurs soigneurs.
Là, on en a une typiquement qui actuellement n'est pas avec les autres gris du Gabon, parce qu'elle est totalement déplumée, donc elle aurait froid dehors. Et elle est à côté du standard, et donc quand le téléphone sonne, souvent, en même temps qu'on décroche, elle dit bonjour.
Faisons maintenant un plongeon vers une autre espèce. Voici les otaries.
Alors on a Athos, qui est notre gros lion de mer, qui est âgé de 17 ans. Ah, c'est un dispositif pour toutes nos otaries. Donc, en face de vous, on a ce que l'on appelle un otarivuve. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles sortent des loges intérieures pour aller vers l'extérieur, elles se trempent là-dedans. D'abord, un, ça les nettoie. Deux, elles ont pris l'habitude de faire leurs excréments à cet endroit-là. Juste devant, là, on a le grand bassin d'eau douce. Ici, par contre, on a un petit bassin qui, lui, est un bassin d'eau salée. Avec les ballons, hein, parce qu'elles adorent jouer.
Nous assistons à une scène un peu magique. Kim, la soigneuse, libère Maximus. Le petit otari se balade dans la pièce avec nous et suit sa soigneuse à la trace. Ils semblent également très intrigués par ma présence. Si je suis d'ailleurs tentée de le caresser, je garde ma main dans ma poche, ou plutôt sur mon enregistreur. Kim fait du medical training avec Maximus. En échange d'un poisson, la soigneuse regarde un œil. Pour l'autre œil, il faudra un autre poisson. Et pour regarder les nageoires, Kim a appris à Maximus à la lever et à la taper, à condition bien sûr que le seau soit rempli de poissons frais.
Ce medical training est très important pour apprendre à l'animal à se laisser manipuler et donc pouvoir lui prodiguer les meilleurs soins s'il y a un problème. Le but est de faire ces manipulations sans endormir l'animal. Comme nous le disait Patrick Violas, il est très compliqué d'endormir une otarie. Avec son système respiratoire complexe, car elle vit sous l'eau et sur la terre, il y a 50% de risque de la perdre en voulant l'endormir. Le medical training est donc un aspect très important à la tanière. Et cette méthode semble plutôt bien fonctionner avec Maximus.
Dernier arrêt, et pas des moindres, les anciens singes de laboratoire. Sophie nous prévient, il y a deux règles. Nous ne pouvons pas regarder les animaux dans les yeux, ni leur sourire. En effet, ils pourraient prendre cela comme un acte de défi. Rencontre rapide avec Canel.
Ça, c'est la chérie du patron.
Canel est rentrée dans un laboratoire lorsqu'elle avait 2 ans. Elle en est sortie 19 ans plus tard, à 21 ans. Elle a fait 3 cycles de recherche. Force de vie, il lui reste une dizaine d'années à vivre et la tanière l'a recueillie pour lui permettre de vivre une belle retraite. Ce petit singe avait fait 3 cycles de recherche. Habituée à vivre dans de petites cages, elle est aujourd'hui habituée à vivre dans des espaces de plus en plus grands, mais également à vivre en groupe.
Nous reprenons la route direction la sortie. C'est la fin de ce grand tour, et pourtant non exhaustif, de la tanière. En effet, dans la voiture, Sophie nous raconte l'histoire d'animaux que nous n'avons pas eu le temps de voir. Émile et Peggy, les sangliers, Wilson et Bobo, les singes capucins, ou encore Fripouille, le tamarin à main rousse. Il y a également les animaux domestiques, les chevaux, les chèvres ou encore les moutons, que nous n'avons pas eu le temps de voir. Mais la nuit est déjà tombée, et il est grand temps pour nous de sortir de ce monde magique et de revenir à la réalité.
J'espère vous avoir fait voyager dans un autre monde pendant cette heure. Merci à toutes et à tous. Je remercie particulièrement l'équipe de Radio Grand Ciel, Émilie, Christophe et Simon, pour leur accueil et leur confiance. Vous pourrez retrouver ce hors-série de l'émission Touche et Terre en podcast sur le site de Radio Grand Ciel. Je vous souhaite une agréable journée sur les ondes de Radio Grand Ciel.